France Culture.
Réplique après le 7 octobre avec Nathalie Azoulay et Pierre Assouline. Alors que la Shoah comptait plusieurs dates phares, comme l'ascension d'Hitler le 30 janvier 1933, la nuit de cristal le 9 novembre 1938, la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 ou encore le 27 janvier 1945, la libération d'Auschwitz, cette date-là crevait l'écran à elle toute seule et restait en l'air sans sous-titres, comme le 11 septembre. Cette date, le 7 octobre, est au cœur du roman de Nathalie Azoulay, « Toutes les vies de Déo », dont sont extraites les lignes que je viens de lire, ainsi que du roman de Pierre Assouline, « L'annonce ». Je voudrais savoir, Nathalie Azoulay et Pierre Assouline, ce que le 7 octobre signifie pour vous. L'événement si difficilement qualifiable qui est survenu ce jour-là a-t-il changé votre façon de voir et même d'être au monde, Nathalie Azoulay?
Oui, je pense que je peux le dire comme ça. Je peux dire qu'il a provoqué chez moi une longue stupeur et un long temps nécessaire à prendre la mesure de l'événement et sa portée, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et surtout, il a invalidé cette parole qui est devenue une parole magique, à savoir le plus jamais ça, dont on s'est vraiment gargarisé pendant des décennies et dont on comprend aujourd'hui qu'elle est invalidée, qu'elle est dévaluée, qu'elle est décotée et que, évidemment, que les choses peuvent revenir sous différentes formes et avec la même cruauté et le même degré de ravage, en fait.
Mais qu'avait-il de si différent ce 7 octobre des attentats et même des massacres qui ont émaillé l'histoire d'Israël, Nathalie Azoulay?
Il a eu pour effet de mettre à découvert une barbarie qu'on n'avait encore jamais vue, une manière de réinventer l'horreur et le spectacle de l'horreur et sa diffusion à travers le monde, et une sauvagerie qui s'est abattue sur les corps et dans un pays qui n'était pas préparé à ça et où ça n'aurait pas dû se produire. Donc les attentats qui ont émaillé l'histoire d'Israël sont des attentats qui maintenant sont un peu typés. Et là, on est sorti du type et on a créé un événement de toutes pièces avec une nouvelle forme.
Pierre Assouline.
Oui, pour moi, ce n'est pas juste un attentat, c'est autre chose. C'est une guerre. Parce que le projet était d'aller beaucoup plus loin que juste les premiers kibboutzim de la bande de Gaza. En général, par rapport à un événement, j'ai toujours besoin du recul historique. C'est un défaut professionnel. Mais là, pour une fois, je me suis surpris à porter un jugement sur ce qu'on vivait pratiquement en direct. Et c'est-à-dire que 24 heures après l'événement, j'ai tout de suite senti que c'était une rupture. Pas seulement pour moi, mais une rupture historique dans la manière d'envisager ce conflit, d'envisager l'histoire d'Israël. Et surtout, l'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai eu ce sentiment que le Hamas avait gagné la guerre le soir du 7 octobre. Pour moi, c'était joué. Que la guerre, sur le plan militaire, après dure des mois et des mois, et soit une victoire israélienne, ce n'était pas le plus important, et ce n'est pas ça qui était en doute. Pour moi, ils ont gagné le 7 octobre, parce qu'ils ont installé un traumatisme dans la population israélienne qui va durer une ou deux générations, sans aucun doute. Parce qu'elle n'est plus à l'abri. Elle a toujours été à l'abri. Ne pas oublier que Tzahal, c'est l'acronyme de armée de défense d'Israël. C'est pas armée d'attaque, armée de défense. Et Israël a été créé pour ça, pour protéger les Juifs des pogroms et de tout ce qui ressemble à des pogroms, des razzias, etc. Et des massacres, bien sûr. Et là, ben, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une rupture dans la mentalité israélienne. Mais au-delà de ça, c'est la première fois aussi. Et c'est pour ça que le Hamas a gagné quelque chose de malheureusement d'extraordinaire. C'est la première fois que un massacre, une guerre, un attentat, peu importe le nom qu'on lui donne, entraîne très vite dans toute l'Europe et en Occident une vague d'antisémitisme comme il s'en est jamais produit. La corrélation des deux événements, si vous voulez, m'a imposé de mettre en épigraphe de mon livre une phrase de citation de David Grossman que j'ai entendue dans une émission qui s'appelle « Réplique un samedi matin » et je l'ai aussitôt notée parce que je la connaissais pas. Et pour moi, c'est vraiment ça.
Tragiquement, Israël n'a pas réussi à guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas se sentir chez soi dans le monde. Et cette phrase, David Grossman l'a prononcée ou écrite quelques années avant le 7 octobre. Et c'est le 7 octobre, en effet, qu'elle s'est vérifiée, parce qu'on parle d'importation du conflit israélo-palestinien à propos des manifestations et des agressions antisémites. Non, vous avez raison, ça a été une importation du 7 octobre, jusque dans ce viol d'une fillette à Courbevoie, je crois, qui venait d'avouer qu'elle était d'origine juive, et son petit camarade lui dit « tu es juif, tu es complice du génocide », et avec quelques autres, il la viole. C'est une réplique du 7 octobre, parce que les femmes ont été, si j'ose dire, presque les victimes principales, violées, massacrées, etc. Donc c'est ça qui est très impressionnant.
Mais ça, c'est nouveau.
Et c'est venu, ça, c'est en effet, juste après l'événement.
Bien sûr.
Juste après
l'événement. Et ça a continué.
Moi, je voulais rajouter juste une chose, c'est que...
Oui, et Nathalie Azoulay.
Ça s'est vérifié à l'instant, c'est que cet événement n'a pas eu de nom, et il a mis en échec le langage. On a utilisé les noms de massacre, les noms d'attentats, les noms de guerre, les noms
pogrom.
De pogrom.
Oui.
On utilise le nom de barbarie, de sauvagerie, et en fait, il n'y a pas de nom pour cet événement.
Il n'y a pas de nom, c'est vrai. Peut-être que pogrom est-il le plus proche de...
Oui,
de
sauf vérité. Qu'il est prémédité, ils sont tous armés jusqu'aux dents, donc c'est encore une autre forme de pogrom.
Le pogrom est très connoté à l'histoire des Juifs dans la diaspora,
oui.
Dans l'Europe de l'Est, puisque dans le monde arabo-musulman, quand il y avait des émeutes anti-juives, on parlait de massacre, mais on ne parlait pas de pogrom.
On parlait de razzia aussi.
De razzia, oui. Qui est une vieille tradition.
Hein. Oui.
Donc c'est très connoté quand même, pogrom.
Vous dites à quel point cet événement vous a marqué, et il est présent dans vos livres. C'est très intéressant, c'est-à-dire que des essais sont déjà parus après le 7 octobre. Mais là, c'est la littérature, à travers vos deux romans, qui accueille l'événement. Alors, entrons justement en littérature. Toutes les vies de Théo, c'est d'abord la rencontre de Théo, né d'une mère allemande, qui vit dans la contrition, l'expiation perpétuelle, et Théo a été biberonné au plus jamais ça. Je vous cite Nathalie Azoulay. Et il rencontre Léa, une juive, et il a l'impression, en l'épousant, et ensuite en ayant un enfant avec elle, ou une enfant, en l'occurrence Noémie, d'acquitter sa dette. Et en même temps, le 7 octobre arrive, le jour du 50e anniversaire de Théo, et cet événement va ébranler leur couple. Alors que se passe-t-il, Nathalie Azoulay ?
Alors mon roman a voulu faire du 7 octobre un événement intime. Et de fait, voilà. Il l'a été pour beaucoup de monde en diaspora et en particulier en France. C'est-à-dire qu'on a vécu la stupeur de loin et aussi de près, c'est là toute l'ambiguïté, mais un ensemble de répercussions qui ont frappé les relations, mais qui ont été aussi très évolutives. Et donc, Théo et Léa qui se sont unis dans une harmonie, parce qu'en effet, lui apure sa dette vis-à-vis du crime européen, de la Shoah, et elle, juive polonaise, se met à l'abri en épousant un Français qui, même avec une mère à moitié allemande, est quand même un Français ancré depuis des générations dans le territoire. Donc il y a un emboîtement parfait entre ces deux histoires et une harmonie qui va durer plus de 20 ans. Mais à l'occasion de cet événement du 7 octobre, en fait, ils traversent tous les deux non pas une crise politique, mais une crise existentielle. C'est-à-dire que soudain, Léa se réveille à sa propre judéité qui était assez superficielle, assez lointaine, assez estompée. Certes, il y avait eu la Shoah, certes, il y a une rescapée de la Shoah qui est sa grand-mère, mais c'était une juive quand même assez assimilée en France. Et donc, avec le 7 octobre, évidemment, elle se réveille à une judéité qui la surprend elle-même, et surtout à un sionisme qui la surprend elle-même, puisque elle n'a jamais voulu spécialement aller en Israël, et elle a des liens assez distants avec ce pays. Et de l'autre côté, Théo se rend compte qu'à ce moment-là, ce qu'il a pu accompagner de judéité, la solidarité qu'il a développée à l'égard de sa femme, est liée à la Shoah. Et quand arrive le 7 octobre, alors certes, il comprend l'événement, il a vraiment toutes les armes pour comprendre, mais il ne le ressent pas comme elle. Et surtout, déboule dans leur couple cet objet Israël qui n'avait pas encore déboulé de cette façon-là. Et donc, à ce moment-là, ils sont tous les deux frappés par une espèce de surprise gigantesque, mais qui est existentielle. Parce que sur le fond, ils sont assez d'accord politiquement. Donc, mon roman n'a pas voulu parler de ça. Il a vraiment voulu parler des répercussions intimes et des dissensions qui sont là, parce que même dans cet emboîtement harmonieux qu'ils ont vécu, ils n'étaient pas les mêmes. Lui avait certes eu une mère allemande qui n'était pas juive, mais qui était allemande, et elle avait une histoire juive frappée par l'Allemagne et la Shoah. Évidemment qu'ils n'étaient déjà pas les mêmes, et qu'ils avaient une façon de vivre l'identité qui était à la fois moderne, c'est-à-dire dans un principe d'ouverture, de rencontre de l'autre, de désir d'altérité, mais qui était quand même construite sur des fondements différents, avec des fissures qui étaient colmatées par l'amour, mais qu'au bout de 20 ans d'amour, ont été mises au jour et réveillées par cet événement brutal et massif.
Oui, d'ailleurs, elle dit justement, Léa, que l'histoire, et nous parlons donc du 7 octobre, l'avait prise par le col, qu'elle l'obligeait à retourner dans sa niche. Ta niche, ma niche, quelle niche? La niche des Juifs. Voilà, un peu, et Théo est désemparé devant ce repli sur la judéité de Léa, qui a quand même dit avant le 7 octobre à Théo que effectivement les Juifs, c'était un club orgueilleux, un club très fermé. Et avec sa famille, elle formait un clan, ce qui a commencé à peser aussi bien sur Théo que sur Benjamin, lequel avait épousé la sœur de Léa Rose. Alors, maintenant, vous, Pierre Assouline, de quelle manière avez-vous fait entrer le 7 octobre dans votre roman L'Annonce ?
Il m'est tombé dessus, tout simplement, parce que, en fait, j'avais commencé ce roman un an et demi avant l'attaque du 7 octobre, avant le massacre. Et donc, je voulais, depuis 50 ans en fait, écrire un livre sur ce qui s'était passé pendant la guerre du Kippour en 1973. Et je voulais le raconter à travers un cas particulier. Donc, pour moi, tout roman est entre l'universel et s'articule sur l'universel et le particulier. L'universel, en l'espèce, c'est la rencontre de l'amour et de la mort en même temps par deux jeunes de 20 ans. Le particulier, c'est que ça se passe en pleine guerre, donc en période de crise maximum, dans un pays, Israël, qui n'a jamais connu que la guerre depuis le début de son existence. Mais en 1973, on était 25 ans après la création de l'État. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait tout drôle, parce que 25 ans, c'est rien.
Et c'était le 6 octobre.
C'était le 6 octobre.
C'est le 6 octobre que la guerre a été déclenchée, le 6 octobre 1973. C'était une guerre déclenchée par l'Égypte
et la Syrie.
Et la Syrie, le jour de
Kippour.
Kippour, justement.
Il pensait être le meilleur jour pour ça, puisque c'est un jour où le pays est mort, en quelque sorte, il est figé dans la prière. Or, c'était le pire jour, parce que tout le monde était rassemblé, justement, et c'était beaucoup plus facile pour être mobilisé. Et donc, si vous voulez, je pensais raconter ça un jour dans un roman, raconter quelque chose de particulier à travers cet universel. C'est que ce jeune couple de 20 ans, lui, c'est un jeune Français juif qui se porte volontaire pour aider Israël dès le début de la guerre et qui fait connaissance d'une jeune fille de 20 ans aussi. Qui
volontaire, il n'a pas fait la guerre.
Volontaire civil.
Volontaire civil, dans un moshav.
Voilà, il n'y a pas de volontaire.
Un village qui n'est pas tout à fait un kibbutz, quoi.
Il n'y a pas de volontaire militaire étranger, parce que pour des raisons évidentes de sécurité.
Bien sûr.
Et donc, ils font connaissance et elle est affectée au bureau psychologique de l'armée et elle a une fonction qui est particulière, mais qui existe dans toutes les armées du monde. Elle est là pour annoncer la mort d'un frère, d'un fils, d'un père, en allant taper à la porte d'une famille. Et on n'envoie pas une lettre comme ça, on envoie quelqu'un l'annoncer. Et donc, il va l'accompagner quand il sera libre, en général, pendant le samedi et le dimanche. Et ça va évidemment changer son rapport à lui, à la mort. Et ça a marqué sa vie à jamais pour des raisons évidentes.
Et alors, ce qu'on apprend aussi dans votre livre, Pierre Assouline, je ne savais pas, c'est qu'il y a eu une réunion du cabinet le 6 octobre à 8h du matin autour de Golda Meir. Et Golda Meir et Dayane rejettent le principe d'une attaque préventive, parce qu'ils sont quand même prévenus de ce qui est en train de se passer. Parce que après 1967 et la guerre des six jours, Washington ne leur pardonnerait pas. La guerre des six jours, ils avaient anticipé l'attaque égyptienne. Là, ils ne pouvaient pas le faire, ce qui les a mis en position de faiblesse.
Voilà, ça c'est la commission d'enquête sur les événements du 6 octobre, ce qu'on a appelé les négligences, et qui a montré, effectivement, la commission à Granate a montré que Golda Meir le savait, mais que c'était impossible de prendre les devants. Pas une deuxième fois.
Vous ne pouvez pas prendre les devants une deuxième fois.
C'était impossible.
C'est impossible.
Parce que là, l'opinion publique mondiale n'aurait pas pardonné, et même les États-Unis, ça leur aurait posé un gros problème de solidarité. Donc, ça, c'est aussi une des analogies avec le 7 octobre 2023. Mais moi, j'étais en train d'écrire ça.
Voilà, et tout d'un coup, le 7 octobre vous tombe dessus.
Oui.
Donc, vous modifiez l'architecture de votre roman.
Voilà.
Donc, Raphaël et Esther, qui se sont rentrés autour d'une partie d'échecs. Raphaël rentre en France, alors que c'était vraiment un grand amour. Et il revient, 50 ans après, en Israël, quelques jours avant le 7 octobre, et il va retrouver Esther. Et donc, que faites-vous donc dans votre roman, justement, de cet événement? C'est difficile à qualifier, Pierre Assouline.
C'est-à-dire qu'il y a des analogies. Bon, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, on le sait bien, mais il y a des analogies. Cette façon de dire, voilà, on l'a su quelque peu, très peu de temps avant, eh bien, ça s'est reproduit le 7 octobre, puisque les guetteuses qui malheureusement ont payé le prix le plus cher, parce qu'elles ont été kidnappées ou assassinées à leur poste de travail, et les guetteuses de la frontière, de l'armée israélienne, ont prévenu leur chef, non pas quelques heures, mais quelques jours avant, parce qu'elles voyaient tout. Elles voyaient l'entraînement, les satellites épluchent absolument tout. Et elles sont au premier rang pour éplucher tout ça. Et on ne les a pas pris au sérieux, tout simplement, parce que c'est des femmes. Et ça, c'est ce qui va sortir, on le sait déjà, de la commission d'enquête qui est en train d'être achevée sur les événements de 2023. Ça va sortir et c'est accablant pour les chefs de l'armée. Alors, certains chefs d'état-major ont déjà démissionné. En fait, la seule démission qu'on attend, que tout le monde espère en Israël, c'est celle de Netanyahou.
Tout le monde n'espère pas, mais une grande proportion d'Israéliens l'espère.
Une majorité
l'espère. Nous y reviendrons. Dans un podcast de la revue K, je crois, Nathalie Azoulay, vous dites que l'angoisse des Juifs est à la fois légitime et invivable. Il me semble que c'est aussi ce que montre votre roman. Donc, à la fois légitime et invivable. Que voulez-vous dire par là, Nathalie Azoulay?
Mon roman est écrit du point de vue du personnage de Théo. C'est lui qui observe la scène, c'est lui qui observe les autres personnages, et c'est donc lui aussi qui observe Léa, son épouse. Et cette façon de dire que c'est à la fois légitime et invivable, c'est lui qui l'éprouve, puisqu'en effet, dès lors que le 7 octobre se produit, Léa entre dans une espèce de trou, de niche, de repli, où elle n'est plus vraiment en accord avec son propre mari, et où elle rejoint les siens, c'est-à-dire que ce nous qui est constitué par un couple amoureux, Théo-Léa, au démarrage, se fissure, et le nous devient Léa et les siens, tandis que Théo rejoint les autres, en fait. Dans une histoire d'amour, il y a nous et les autres, et là, il passe du côté des autres.
Ah, complètement, il bascule.
Il bascule du côté des autres.
Amoureux d'une artiste.
Alors, c'est graduel.
C'est graduel.
Et donc, au moment où se produit le 7 octobre, Léa n'arrive plus à communiquer avec son mari. Elle devient elle-même très enfermée dans ses propres réflexions. Elle ne supporte plus les conversations à l'extérieur. Elle ne supporte plus les oui-mais. Elle ne supporte plus les bémols. En fait, elle veut que tout le monde soit d'accord avec elle et surtout, comme elle le dit dans le livre. Et cette position extrême, intense, est épuisante, en fait, pour Théo, qui lui-même se sent un peu rejeté. C'est-à-dire que il est solidaire, mais jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, elle va réussir même à lui faire dire qu'il ne ressent pas l'angoisse comme elle.
Et c'est un fait.
Et il ne peut rien contre ça, puisqu'il n'est pas juif.
Oui, mais justement, on est au cœur du problème. Moi, ce passage sur l'angoisse m'a renvoyé je crois, un auteur que vous aviez, il me semble, invité il y a très très longtemps, Jean Daniel, La prison juive.
Oui, la... Je l'ai invité plusieurs fois, mais je l'ai invité pour La prison
juive. Pour La prison juive, c'était au moins il y a 15 ou 20 ans.
Oui.
Eh bien, dans La prison juive, Jean Daniel disait, j'en ai assez d'être assigné à ma condition de juif, je voudrais en sortir, puisque je ne me sens pas si... voilà. Et je trouve qu'il y a un écho. Genre, je ne sais pas si vous l'aviez lu à l'époque, mais il y a un écho dans votre livre par rapport à cette volonté de sortir d'une asphyxie qui est oppressante, en fait.
Alors, il y a un écho notamment dans le personnage de Rose, parce que Léa retourne à la niche, c'est son mot, la niche juive, à la grande surprise de Théo. Pour ce qui est de Rose, les choses sont tout à fait différentes. Elle dit « Je suis juive par Nina », ma grand-mère, rescapée de l'extermination, mais pas par Gaza.
Pas par Israël.
Et elle dit pas par Gaza aussi. Ah, je connais votre livre par cœur, hein, je peux le préciser. Et pas par Israël, pas par Gaza. Elle dit même, j'en ai assez, je veux faire disparaître la tâche. La tâche. Et elle dit, oui, c'est ça. C'est-à-dire que elle a honte et elle ne veut plus être comptable des actions d'Israël après le 7 octobre, de ces bombardements, de l'accumulation des morts civiles. Donc les choses se distribuent entre Rose et Léa, Nathalie Azoulay.
Oui, ce sont deux sœurs très proches qui ont été éduquées de la même façon. Alors elles ont des tempéraments différents, mais elles sont quand même très proches. Après le 7 octobre, elles ne ressentent pas les choses de la même façon. Et ce que dit Rose à un moment donné de l'histoire, c'est qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée d'être juive, elle est fatiguée de prendre la faute d'Israël qu'on lui désigne toute la journée sur ses épaules. Elle veut s'en débarrasser, elle veut s'en délester. Tandis qu'en effet, Léa, en face, la prend tout entière. Même si elle-même, ça lui pèse beaucoup et que ça la condamne à une forme de repli et d'angoisse permanente, elle n'a pas d'autre choix que de pouvoir le faire. Or, Rose, qui a un tempérament plus léger, plus rêveur, plus poétique, et de cadette aussi, il faut bien le dire, a une forme de désinvolture qui lui permet de prendre ses distances et qui lui permet d'arrêter les compteurs. C'est-à-dire qu'elle dit « Moi, je suis vive jusqu'à Nina, c'est-à-dire ma grand-mère rescapée des camps. Et dès lors que Nina n'est plus de ce monde, alors je passe à autre chose. » Et elle le fait avec un certain succès, en fait. Elle retrouve un autre homme dans sa vie qui va lui promettre des voyages, du romantisme, etc. Et entre les deux sœurs, la relation se grippe terriblement. Et évidemment, cause beaucoup de peine à Léa, qui est elle-même tentée par une forme de lâchage d'Israël, mais qui ne le fait pas et qui ne peut pas le faire.
Une forme de lâchage d'Israël, dites-vous, mais on peut aussi poser le problème autrement, parce que vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, Pierre Assouline, au fond, la dispute est un élément constitutif de l'âme juive. Les juifs se disputent tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. Mais est-ce que, avec le 7 octobre, Netanyahou, la guerre à Gaza, est-ce que cette dispute n'a pas atteint un point de non-retour? C'est-à-dire que maintenant, Israël est un pays fracturé. Je ne sais pas si cette fracture se reflète complètement dans la communauté juive française, mais les gens, malgré la guerre,
oui,
sont à couteau tiré.
Mais parce que ils avaient commencé avant.
Pierre Assouline, oui.
Ils avaient commencé bien avant. J'ai assisté à beaucoup de manifestations contre la refonte judiciaire. Et donc, un an avant, c'était déjà très fracturé. Et puis, à l'intérieur de cela, il y a aussi la fracture entre les religieux et les laïcs.
Oui.
Parce que le gros problème, hein, depuis des années, qui dure, mais qui s'est cristallisé avec les événements de Gaza, c'est ce conflit entre laïcs et religieux. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on parle autant de la guerre que du refus des ultra-orthodoxes d'enrôler les
oui.
jeunes étudiants dans l'armée. Mais ça, c'est un débat de fond. C'est un débat, j'allais dire, ontologique presque. Parce que pourquoi certains auraient le droit de ne pas risquer leur vie pour défendre un pays alors que des jeunes meurent tous les jours pour défendre ce pays? Là, il y a une fracture qui n'est pas prête de se refermer.
Oui, on vient de rendre à Israël les cercueils de 4 otages, dont les 2 petits-enfants Bibas, et aussi, non pas la mère, mais, ironie atroce, une Gazaoui qui a remplacé la mer.
Le Hamas s'est payé leur tête, une fois de plus. Ce qui est quand même d'une, à la fois d'une morbidité et d'un sordide absolu.
Oui, et d'ailleurs, même l'ONU a dénoncé, même l'ONU,
le côté abject.
Cette mise en scène abjecte et cruelle.
Et leur créativité en matière d'horreur,
Nathalie Azoulay.
L'imagination...
Elle est sans limite, en fait. Ils inventent tous les jours une nouvelle scène.
Là, par exemple.
Et d'un autre côté, vous parlez dans votre livre, Pierre Assouline, de bulles cognitives. Mais ne pourrait-on pas dire qu'il y a en Israël une bulle compassionnelle? On ne peut pas mettre les choses sur le même plan. Des victimes de bombardements, ce n'est pas la même chose que des enfants et des tout-petits-enfants pris en otage. Ce n'est pas la même chose. Mais d'un autre côté, beaucoup d'enfants sont morts dans les bombardements de Gaza. Et certains ont perdu toute leur famille, leurs parents, leurs enfants, etc. Et on a l'impression que ça ne frappe pas les Israéliens. Alors je parle presque un peu comme Rose, j'en sais rien, mais que pensez-vous? Cette bulle-là n'existe-t-elle pas aussi bien en Israël que peut-être parmi les Juifs du reste du monde? Nathalie Azoulay.
En tout cas, le personnage qui incarne tout ça et qui est Léa dans le roman vit les deux choses, c'est-à-dire qu'elle sait très bien au bout d'un moment, et une fois la riposte israélienne mise en place, elle sait très bien qu'il y a un problème avec ces bombardements, avec le nombre de morts qui est scandé tous les jours, les conversations dans lesquelles elle entre et qui le lui rappellent quasi quotidiennement. Elle sait très bien que la quantité de morts et le fait que ce soit des civils lui pose un problème et elle est elle-même dans ce dilemme. Pour ce qui est des Israéliens, alors moi j'ai une position de romancière, il n'y a pas d'Israéliens dans mon roman vraiment, mais je pense que c'est faux. Je pense que il y a une partie des Israéliens qui savent aussi ce que c'est que de voir mourir des enfants et qui se sont même élevés contre la pratique de la guerre du gouvernement. Oui, donc je pense qu'il y a... Mais en même temps, leurs enfants sont frappés, enfants sont détruits, et dans ces cas-là, on regarde du côté de ses enfants.
Oui, non. Quand un personnage de ce roman de l'annonce parle de bulle cognitive, il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, c'est toujours la longue durée, il faut toujours se projeter. Cette bulle cognitive que je vois aussi chez un certain nombre de Juifs en diaspora aussi. Il ne s'agit pas seulement d'être insensible, c'est la bulle dans laquelle s'enferment des gens qui ont le sentiment de vivre dans une citadelle assiégée. Ce qui est exactement le cas.
Ce qui est le cas.
Il faut quand même rappeler, Israël, c'est un bout de terre, c'est une langue de terre au bord de la mer, c'est minuscule. Et ils sont entourés par des pays qui leur sont hostiles depuis 75 ans, même s'il y a des gradations dans l'hostilité. Donc ce sentiment de bulle cognitive, moi j'en suis convaincu, et ce sont des psychiatres et psychanalystes israéliens qui les premiers ont pointé cette bulle cognitive. Mais ça ne me scandalise pas, je le comprends à la limite, vu leur situation. Je peux très bien le comprendre, simplement... Ça peut les rendre insensibles. Encore une fois, on parle en général, bien entendu. Il y a une fraction plutôt minoritaire, à mon avis, de la population israélienne qui est très sensible au sort des Palestiniens, des bombardements, etc. Mais c'est nous d'abord, parce que c'est nous qui sommes en permanence. Ce qu'il y a de nouveau avec le 7 octobre, à part ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce sentiment terrible que ce pays, Israël, est entouré d'une haine absolue. Aujourd'hui, quels que soient les accords diplomatiques, commerciaux, etc., ça, c'est rien. Il y a un cordon de la haine, un cercle de la haine qui s'est formé autour de ce pays qui fait qu'effectivement, ils ont de quoi se sentir assiégés.
Oui, c'est vrai, une haine absolue. Et puis, vous citez dans votre livre, Pierre Assouline, cette phrase très forte de Golda Meir. Lorsque nos ennemis aimeront leurs enfants davantage qu'ils ne nous détestent, alors la paix viendra. Ça me rappelle cette phrase aussi d'Herta Müller, la romancière prix Nobel de littérature. Les Israéliens se servent de leurs armes pour protéger leur population. Le Hamas se sert de sa population pour protéger ses armes. Voilà. Et ça, c'est une différence, en effet, très importante. Mais je voudrais en venir maintenant, justement, parce que David Grossman est très présent dans votre roman Pierre Assouline, même le titre. L'annonce, bah oui. C'est, ça évoque une femme fuyant l'annonce.
Exactement.
Et ça évoque aussi, bien entendu, cette oraison funèbre, cet discours d'adieu prononcé par David Grossman après la mort de son fils Ouri lors de la guerre du Liban. De 2006.
Il avait eu cette phrase extraordinaire, notre famille a perdu la guerre.
Notre famille. Et il dit ceci aussi, chers amis, dans la nuit de samedi à dimanche à 3h-20, on a sonné à notre porte et dans l'interphone, un officier s'est annoncé, je suis allé ouvrir et j'ai pensé, ça y est, la vie est finie. Car c'est ça l'annonce. Mais j'en parle aussi parce que dans son évocation d'Ouri, il y a un passage absolument bouleversant. Il dit « Ouri, c'était un condensé de l'israélianité telle que j'aimerais la voir, celle qui est désormais presque oubliée. Parfois, en le regardant, je pensais que c'était un jeune homme un peu anachronique. Il était un enfant des années 1950. » Ouri, avec son honnêteté totale et sa façon d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passait autour de lui. Un enfant des années 1950. Comme si quelque chose d'Israël, que David Grossman défendait et incarnait, risquait peut-être aujourd'hui de disparaître.
Oui, mais je pense. Avec Grossman, c'est très peu exprimé depuis le 7 octobre. On a beaucoup dit qu'il était dans une tristesse absolue, dans l'accablement absolu. Et d'après ce que j'ai vu, le peu de choses qu'il a dites ou écrites, c'est surtout l'accablement de toute une génération d'Israéliens qui ne reconnaissent plus leur pays. Mais ça fait un certain temps déjà, car encore une fois, tout ce qui s'est passé à propos de la refonte judiciaire, a quand même cristallisé une volonté chez certains d'essayer de retrouver les valeurs d'un pays qui a été métamorphosé. Autrement dit, ils n'ont pas créé ce pays uniquement pour faire des start-up et des soldats d'élite.
Bien sûr.
Il y a aussi autre chose, il y a des valeurs du judaïsme, il y a tout ça. Donc, si vous voulez, il y a une remise en question extraordinaire à cause de ce qui s'est passé, de ce massacre en une journée, encore une fois, l'onde de choc, à mon avis, va durer pendant très longtemps.
Sans doute. Alors revenons-en maintenant à Théo, Nathalie Azoué. Donc Théo. Théo et Léa, leur belle entente se fissure. Léa dit « tu es mon mensch ». Puis ça ne marche pas, pour les raisons que nous avons dites. Et Théo s'en va, il tombe amoureux d'une artiste libanaise, et il bascule totalement dans l'autre camp. Tu as passé la moitié de ta vie avec les juifs ou à être juif, et l'autre moitié, lui dit Léa, tu vas la passer...
À vouloir être juif,
tu vas la passer à vouloir être arabe. Et il va très loin en plus dans l'identification, en effet, Théo, mais après, il se sépare même de Maya, qui est très jeune, elle a 26 ans. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens, justement, de ce personnage et de cette évolution, Nathalie Azoulay?
En fait, ce roman a été conçu comme une forme de parabole. Alors, c'est à la fois un roman parce que il y a ce personnage de Théo qu'on voit évoluer sur plus de 20 ans, sa femme, sa fille, tous les personnages secondaires autour d'eux. Et puis, il y a ce basculement un peu rapide que Théo va vivre en quittant sa femme et en s'éprenant de cette jeune femme qui s'appelle Maya et qui est en effet chrétienne et libanaise, et qui va le propulser de l'autre côté du conflit, en fait. Et je me dis que, en effet, dans la vraie vie, peut-être que il aurait mis plus d'années à le faire, ou peut-être ne l'aurait-il pas fait du tout. Mais moi, j'ai voulu, dans ce roman, glisser une parabole et la travailler comme telle, avec ses effets d'accélération, de compacité et aussi de polarisation, puisque Maya est quasiment l'exact contraire de Léa. Mais je le faisais en toute conscience. Et donc, à ce moment-là, Théo et lui animent animée par à la fois une crise de la cinquantaine. En plus, on lui a volé ses 50 ans puisque c'était le 7 octobre 23. Et suite à ça, donc la relation avec sa femme s'est gravement détériorée et arrive dans sa vie cette jeune femme éblouissante, séduisante, flamboyante, pleine d'ambition. Et il se trouve que Léo est critique d'art, qu'il est très implanté dans le milieu de l'art contemporain et que cette jeune Maya est une artiste qui a de grandes ambitions de carrière. Et donc là aussi, ça s'emboîte parfaitement puisque il va l'aider à construire sa carrière, il va la sortir d'une forme de mièvrerie de la représentation parce qu'elle est un peu kitsch, Maya. Et petit à petit, en faisant ça, en fait, Maya va corser ses messages et va se révéler elle-même assez différente de la Maya initiale. C'est-à-dire qu'elle va peu à peu devenir aussi elle-même traversée par l'idéologie, par le conflit et par une prise de position et une partialité qui va d'abord décontenancer Théo, puis le séduire. Puisque, enfin, il va regarder les choses depuis l'autre côté et qu'il va être un peu grisé, mais si vous voulez, comme un Français qui va en Orient à la fin du 19e siècle.
Oui, c'est ça. Il est grisé et il va très loin aussi. Hein. Il accompagne Maya, justement, dans cette espèce de frénésie idéologique. Et donc dans cette haine d'Israël.
Oui, mais parce que chez Théo, il y a aussi la volonté de se renouveler, c'est-à-dire qu'il sort de la pénitence de la Shoah dans laquelle il est né. Et suite à la fin de son mariage avec Léa, il a envie d'une autre scène historique. Et quand Maya se présente, qu'est-ce qui se présente avec elle? La scène historique qui plaît à la jeunesse du monde. Et c'est vrai que Théo, qui est habitué à faire des conférences dans le monde entier, trouve un nouveau public, une nouvelle oreille et une nouvelle ferveur. Et donc, il y a aussi chez lui un opportunisme de carrière qui frémit à ce moment-là et qui est stimulé par l'ambition de Maya, avec laquelle il va découvrir ce nouveau monde qui fustige Israël, qui est antisioniste, la violence et la ferveur des campus pour l'autre camp. Et là encore, il va être grisé parce que il va avoir le sentiment d'être à la mode et dans l'air du temps.
Alors cette ferveur, elle est aussi présente dans votre livre, Pierre Assouline, cette frénésie même antisioniste, voire anti-juive, sur laquelle il faut que nous nous arrêtions parce que il y a cette anecdote qui fait frémir. Vous parlez d'une voiture qui s'arrête brusquement en double file avenue Henri Martin. Sa conductrice, éructant hors d'elle, à la vue des joyeux convives d'un mariage juif sur le parvis de la mairie du 16e, et s'avançant vers eux pour leur hurler à la figure « Génocidaire, fils de pute, tout le monde sait que vous êtes des génocidaires ». Il s'agit d'un mariage juif.
Oui, facile à vérifier puisque la scène a été filmée par des téléphones portables. On la trouve sur YouTube sans problème. Il suffit de mettre quelques mots-clés et vous la voyez en direct. Là, si vous voulez, et d'ailleurs un des personnages du livre le dit, il se trouve qu'il est vétérinaire, mais c'est plus de la haine, c'est de la rage.
C'est de la rage.
C'est de la rage. Oui. Ça va au-delà. Et des scènes comme celle-ci, ben, moi, je les ai vus aussi, parce que avec l'Internet, on peut tout voir, chez des gens qui arrachent des affiches pour libérer un bébé pris en otage, donc Kfir Bibas. Voir ces gens qui arrachent ces affiches rageusement, et certains même ont été nommés, hein, inutile d'y revenir, on n'est plus dans la haine, c'est un au-delà de la haine. Et donc là, il y a quand même un problème. Vous verrez jamais ça à propos de la guerre en Ukraine. Je rappelle quand même qu'il y a des bombes qui tombent tous les jours sur des crèches, sur des écoles, sur des bibliothèques en Ukraine, des bombes russes. Ça ne fait pas descendre les étudiants partout. Ça ne fait pas arracher des affiches avec un rictus mauvais. Donc, vous voyez, quelque chose se passe là qui, évidemment, réactualise une très ancienne haine qu'on connaît bien. Je ne sais plus quel personnage dit « l'antisémitisme a le sommeil léger ».
Oui, mais alors justement, il y a quand même une différence. Parce que aujourd'hui, une partie de la gauche progressiste, la gauche radicale, accuse les juifs d'être ou de soutenir des colons, des oppresseurs, des tortionnaires. Les Palestiniens, aux yeux de cette gauche, sont les nouveaux juifs, et eux, les juifs donc, les nouveaux nazis, tout simplement. Donc on croyait pouvoir lutter par le devoir de la mémoire contre l'oubli de la Shoah. Un autre scénario voit le jour, une mémoire simplificatrice s'empare des esprits et vise les juifs au lieu de les protéger. C'est-à-dire que l'antisémitisme renaît. C'est vrai, on le voit, mais sous le drapeau du plus jamais ça et de l'antisémitisme, de l'antiracisme, pardon. Oui. Il est adossé à la tragédie juive, ce qui fait qu'on ne peut plus lui faire honte. Eva Illouz parle de haine vertueuse, et peut-être est-ce ce haine, cette rage vertueuse qui s'exprimait dans la séquence que vous racontez.
Bien sûr, et c'est,
Avenue Henri Martin.
Et cette expression de haine vertueuse, trouvée par Eva Illouz en titre de son pamphlet, de son tract, est extraordinaire parce que ça dit tellement de choses. Mais je voudrais juste, si vous permettez, vous reprendre sur une expression. Vous avez parlé de la gauche progressiste, la gauche radicale. Non, pas du tout, c'est pas ça, mais je vois pas en quoi cette gauche radicale, disons la France insoumise, est progressiste.
Non, c'est possible. Elle se veut progressiste.
Oui, non, mais j'imagine même pas qu'elle puisse oser encore, enfin elle a osé bien pire, utiliser le terme de progressiste.
Oui, c'est vrai. Mais elle utilise beaucoup le terme de réactionnaire pour ses adversaires.
Oui, bah ça.
Donc, en cela, elle est progressiste. Mais Nathalie Azoulay, votre livre a quelque chose de très mélancolique quand même. Parce que Maya traverse la vie de Théo, mais à un moment donné, elle rencontre un autre, plus ou moins artiste, un autre homme, juif, mais totalement gagné à la cause adverse, justement au nom de cette haine vertueuse. Et Théo, donc, se voit obligé de la quitter. Et il y a cet épilogue. Cet épilogue absolument terrible. Théo retrouve Benjamin. Donc Benjamin a épousé Rose. Il a quitté Rose parce qu'il a voulu quitter le clan. Il n'en pouvait plus, justement.
Les deux gendres.
Oui, les deux gendres ont quitté le clan.
Tous deux Bretons ont quitté le clan juif.
Il est vrai que, effectivement, le judéocentrisme peut avoir quelque chose de pénible.
Il se sentait accessoire.
Oui, il se sentait accessoire. Mais alors, chacun retourne au bercail. Léa reprend une relation qu'elle a eue très, dans l'adolescence même, avec Dan, son cousin. Et Théo rencontre Virginie, la sœur de Camille, que Benjamin a épousée après Rose, et qui vient de la même région de Bretagne que lui. Et Virginie va entrer dans la vie de Théo. Donc l'expérience de l'altérité, c'est fini pour les uns et pour les autres. Nous sommes très loin des eaux mêlées de Roger Icor. Voilà. C'est absolument terrible. C'est-à-dire, c'est comme si le mélange n'était plus possible. Nathalie Azoulay, est-ce que c'est ça que signifie votre parabole ? Pour reprendre votre terme.
Disons que c'est l'option que j'ai choisie pour cette version-là, comme s'il y en avait d'autres. Et je me suis souvent demandé quelle aurait été la fin la plus heureuse. Qui reste avec Léa, qui reste avec Maya. Bon, ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tentative d'altérité qu'il fait à deux reprises et avec beaucoup, beaucoup de cœur et d'opiniâtreté, échoue toutes les deux. Mais pourquoi elles échouent ? Parce qu'il y a une crise aiguë, une crise historique aiguë qui est liée au 7 octobre et à ses conséquences. Et à ce moment-là, l'altérité se fracasse dessus. C'est-à-dire que l'altérité est une belle chose, est une injonction moderne qu'il est tout à fait louable de chanter et même de vivre, mais tant que on est en temps de paix. Alors, partant de crise, qu'est-ce qui peut se passer ? Soit il y a une solidarité aiguë qui s'exerce, comme chez les époux Klemperer, par exemple. Soit.
Ah oui, ça vous en parlez.
Oui.
Dites un mot des époux Klemperer.
C'est-à-dire que Victor Klemperer avait épousé une arienne. Alors, il n'était pas question de ça encore au moment de leur mariage, mais il se trouve qu'après, c'est un couple fait d'un non-arien et d'une arienne. Il s'était lui-même converti au protestantisme et malgré tout, il a été empêché d'exercer à l'université. Ils ont dû fuir, etc. Mais elle l'a protégé, enfin, d'une certaine manière. Elle est restée avec lui jusqu'au bout. Bon, ce qui m'attriste, c'est que quand elle est morte, il a épousé une autre femme tout de suite. Mais après tout ce qu'elle avait fait pour lui.
Il a écrit Lingua Tertii Imperii.
C'est sûr.
Qui est un livre sur
extraordinaire.
Sur
la langue du nazisme.
Sur la langue du nazisme, qui est absolument prodigieux.
Absolument.
Continuez, Nathalie.
Et donc, soit il y a les Klemperer, donc qui restent ensemble jusqu'au bout par temps de crise et d'adversité, soit on a Théo et Léa qui n'arrivent pas à tenir dans l'adversité et qui, en effet, se trouvent dans une impasse. C'est-à-dire on est dans une histoire de fou, de toute façon, et il y a une forme de syndrome de Jérusalem dans mon livre. C'est-à-dire que tous ces personnages font des tentatives qui échouent parce qu'ils sont tous rattrapés par des fils qu'ils n'avaient même pas vus au départ. Et donc, finalement, c'est vrai que ça se finit d'une manière mélancolique, mais encore une fois, je ne sais pas quel aurait été le happy end de cette histoire.
Et pensez-vous, Pierre Assouline, que les Juifs aujourd'hui sont à ce point seuls qu'ils ne peuvent faire autre chose que de se replier sur eux-mêmes, Pierre Assouline?
Se replier sur eux-mêmes ou trouver un endroit au monde pour continuer à vivre normalement. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Beaucoup de Juifs... En Angleterre, en Belgique, en France.
En Belgique, vous avez raison d'insister.
Et en Angleterre aussi, hein, vous savez, se demandent où est-ce qu'il faut aller vivre, tout simplement. Donc, pense à l'exil. Ce n'était pas le cas avant.
Oui, d'ailleurs, il y a un mouvement de Yérida, d'Israël aussi. Oui, Yérida, c'est-à-dire le retour dans la diaspora. Donc, c'est comme s'il y avait un chassé-croisé. Oui. Des Juifs européens qui vont vers Israël et des Juifs israéliens qui vont, ne suffisent d'ailleurs que pour fuir le service militaire de 3 ans, oui, et pour d'autres raisons aussi.
Et des raisons économiques, mais surtout, la fameuse résilience israélienne qu'on a énormément louée, à juste titre. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment de cette guerre sans fin qui dure depuis 75 ans où on en a assez de faire résilience? C'est une question que je pose au peuple israélien et que je leur pose à chaque fois que j'y vais.
Et mais en même temps, vous savez, dans l'histoire, il y a des guerres qui ont duré des centaines d'années. Donc à la fois, c'est beaucoup, et j'imagine que pour les gens qui la vivent, c'est invivable, justement. Mais si on prend l'échelle de l'histoire, 75 ans de guerre, c'est pas tant que ça, finalement.
Oui, mais c'était une époque où la vitesse n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui.
C'est vrai.
Aujourd'hui, la vitesse prime en toute chose, et les gens ne veulent plus attendre. Parce que je peux très bien comprendre que quand on élève des enfants, on n'a pas envie, à 18 ans, de les voir partir.
Bien sûr.
Mais d'un autre côté, en plus, ce qu'il faut ajouter, que les Israéliens ne peuvent même pas avoir la consolation de l'Union sacrée. J'ai vu sur I24, au moment du retour des cercueils, des otages, un reportage intitulé « Le peuple d'Israël uni dans une douleur infinie ». C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que il y a pas d'unité, me semble-t-il, possible avec Bezalel Smotrich et avec Itamar Ben-Gvir. C'est pour ça que je disais que la dispute aujourd'hui a atteint un point de non-retour. On se disputait, mais on faisait partie du même monde. Là, ce sont quand même deux mondes qui s'affrontent et sans doute aussi à l'intérieur de la diaspora. Je veux dire, parmi les opposants à tout ça, il n'y a pas que Rose. Il n'y a pas que Rose qui dit « ça me salit ». Parce que je connais aussi. On est salis par Israël. Sincèrement, ça me répugne.
Moi aussi.
Ça me répugne. Mais il y a aussi des gens qui sont touchés, qui se disent « mais qu'est-ce qu'on peut avoir avec un homme comme Smotrich qui a dit, après ce qui s'est passé à Ouara, vous savez, un colon juif avait été assassiné, donc par représailles, des autres habitants des implantations avaient incendié des habitations et des voitures dans ce village, et interrogé par un journaliste qui lui dit « mais ils veulent raser Ouara », et Smotrich a dit « il faut raser Ouara ». Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens pareils?
J'ai malheureusement pas beaucoup de réponses.
Oui, mais des gens pareils, vous en trouverez dans tous les pays.
Bah, c'est vrai.
Oui. Mais l'impasse est historique. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Oui. Et pourtant, il va falloir en créer.
Il va falloir. Alors maintenant, je voudrais faire une. Tout pour finir, on n'a plus que 2 minutes, une leçon de vocabulaire. Parce qu'il y a 2 mots hébreux dans vos livres. Donc, je vais avoir un peu plus de lumière. Donc. Traduisez, balagan. Qu'est-ce que c'est le balagan?
C'est le bordel absolu, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est un mot qui vient probablement du russe et qui a été apporté en Israël et dans l'hébreu quotidien par les immigrés russes. Ça veut dire le désordre, le chaos, etc. Et c'est ce qui règne de manière générale en Israël. Mais c'est un balagan très fécond. Voilà. Parce qu'il en sort toujours quelque chose.
Très bien. Et alors, il y a un autre, là, il y a un mot qui parcourt toutes les vies de Théo et que vous ne traduisez jamais vraiment. Donc, on est énervé, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est kavod. Mais qu'est-ce que c'est le kavod?
En fait, c'est un mot très polysémique qui a beaucoup d'entrées, beaucoup de facettes. Et tel qu'il est utilisé par Léa, principalement dans mon roman, il veut dire le goût des honneurs. Je sais que ça veut dire aussi le poids. Je sais que ça veut dire aussi le gras. Et je sais que finalement, à travers les yeux de Léa, c'est un peu le kitsch. Et d'ailleurs, ça commence par K.
Ah oui, donc, et elle fuit le kavod tout le temps.
Elle fuit le goût des honneurs, elle déteste les gens qui se mettent en avant, elle déteste la complaisance, elle a un goût de l'intégrité, de la vérité qui la place en face d'une Maya qui, elle, regorge de kavod et qui d'ailleurs rejette le mot puisque c'est un mot hébreu. Mais c'est vrai que j'en ai fait, je suis partie du sens, enfin d'un des sens littéraux, mais j'en ai fait un objet romanesque.
Vous en faites en effet un objet romanesque. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Vos romans sont passionnants. Donc, je voudrais renvoyer l'auditeur à votre roman, donc Nathalie Azoulay, Toutes les vies de Théo. Il est publié aux éditions POL. L'annonce de Pierre Assouline est publiée chez Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Corentin Bailly. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « De l'école ». Mes invités seront Gabriel Attal et François Dubé. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Oh, so long.